Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Quand il chante, le diamant mandarin a le même objectif que bon nombre d'autres paresseux, séduire. Mais son succès dépend de la complexité de ses trilles, selon une étude parue dans Nature. Natif d'Australie, le petit oiseau apprend le chant auprès de son géniteur mâle. Une caractéristique qui intéresse les chercheurs étudiants, l'apprentissage du langage chez l'enfant. Le diamant mandarin n'utilisera qu'un seul chant durant toute son existence, avec une combinaison unique à chaque oiseau de 4 à 7 syllabes produites en quelques secondes. Mais la recherche a du mal à identifier les caractéristiques d'un chant susceptible de faire chavirer le cœur de la femelle. Ses auteurs, une équipe de neuroscientifiques de l'Université américaine de Dallas, pensent avoir percé à jour le secret du mâle, ou plus précisément le penchant de la femelle, en utilisant une particularité de l'apprentissage du chant chez le jeune passeur ouf. Ce chant peut être imité quand il est appris du père ou improvisé en l'absence de ce dernier. Or, les scientifiques savaient déjà que la femelle préférait généralement le premier au second. Restait à savoir sur quels critères joue cette préférence. Le chant de plusieurs dizaines d'oiseaux ont été filtrés avec un premier algorithme de détection de syllabes. Cette carte a permis de tracer des chemins entre les sons d'un chant et de constater que ce chemin est d'autant plus long que ces sons ont des propriétés spectrales très distinctes. Les chercheurs ont alors vérifié que c'est bien ce critère de distance qui jouait pour la femelle. Ils ont placé une femelle dans un espace où elle avait le choix entre deux perchoirs, dont l'un diffusait un bruit blanc et l'autre un chant synthétisé. Comme supposé, les femelles ont exprimé une préférence pour le perchoir diffusant un chant au chemin long. Ce résultat suggère que les chants à chemin long sont difficiles à apprendre et que par conséquent, la longueur du chemin serait un indicateur fiable de la grande qualité d'un partenaire. En résumé, deux neurobiologistes de l'université américaine Vanderbilt. C'est bien connu, après l'effort, le réconfort.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Semaine olympique et paralympique 2024, troisième édition. Cérémonie de remise de coupe au collège Jean Moulin cet après-midi du 29 avril, récompensant la performance des classes de 6e, lauréates du premier prix 2024. Concernant les quatre autres collèges de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Une compétition qui contribue à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la découverte des disciplines olympiques et paralympiques, intégrant des rencontres sportives partagées afin de lever le voile sur l'handicap.
On peut faire des photos avec des mascottes, comme elles sont présentes avec nous, on peut les prendre.
Vous avez été confronté avec différents collèges, donc il y avait à peu près 5 collèges, quand je dis à peu près, c'est une certitude, il y avait 5 collèges, et puis on est là, bah pourquoi? Parce que comme vous saviez, il y avait une coupe à gagner.
Le collège Jean Moulin était représenté par 6 classes, et donc la 6e une a fini première en parabiathlon. On peut les applaudir. La 6e 5 a fini première en escalade. La 6e 3 a fini première en athlée handi. Et les trois autres classes ont participé à amener des points pour finir premier. Donc le collège Jean Moulin a fini premier devant Mongré sur le podium et Faubert. Voilà, félicitations. On va vous demander...
Alors ça y est, c'est gagné cette coupe?
Oui, c'est gagné. Ouais, c'est... Oui, on a gagné tous ensemble et c'est bien. On a gagné les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a fait... C'était mercredi, on avait joué et voilà.
C'était dur, ils étaient forts en face?
Non, ça va, oui.
On a gagné l'escalade Et puis le collège a remporté le
calendrier. Le collège a tout gagné.
Une très belle mobilisation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure en avant-propos, c'était la troisième année d'organiser de cette semaine olympique au niveau de l'agglo. Donc, c'est monté en puissance. Cette année, donc, il y avait 5 collèges de représentés et 3 lycées. Et il est vrai, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les gamins qui ont participé ont été confrontés à une série d'exercices auxquels ils n'étaient pas habitués parce que certains avaient un rapport avec le handicap, en particulier soit avec les chaises, soit avec le bandeau sur les yeux. Et surtout, c'était leur faire prendre conscience qu'au-delà du handicap, eh bien, il y avait possibilité d'action et puis que leurs jeunes collègues en situation de handicap, soit physique, soit déficient intellectuel, ils avaient toute leur place. Et puis, justement, montrer que le handicap permettait malgré tout d'aller au-delà des limites que chacun peut se faire. Donc, je trouve que c'est bien. Et puis, bon, bah, c'est préparation du citoyen de demain, comme quoi le sport est un peu avant-gardiste, pour ne pas dire très avant-gardiste à ce niveau-là, et qu'on devrait peut-être en parler un peu plus.
Donc, Alexis Valeron, le principal du collège Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône. C'est une belle habitude et je remercie encore chaleureusement l'équipe de PS qui, depuis le départ, organise lors de ce qu'on appelle la semaine des Jeux Olympiques tout un tas d'activités, à la fois donc olympiques et para-olympiques. C'est très important aussi du travail qu'ils font en termes de valeurs aussi, parce que l'objectif, c'est quand même de transmettre des valeurs à travers le sport et tout un tas d'autres choses. Et depuis le départ, ils organisent une semaine olympique au collège Jean Moulin. Et les jeunes sont habitués à se confronter autour des Jeux olympiques. On a des sportifs et des un peu moins sportifs, mais l'équipe est tellement investie que je dirais que c'est assez simple pour les jeunes ici de faire du sport. Et on a aussi une association sportive qui fonctionne très bien, au vu même des difficultés sociales que l'on a. Donner une chance, parce que c'est aussi leur donner un accès au sport grâce à l'association sportive. Je dis bien avec des difficultés sociales réelles, où on a des cotisations au niveau de l'association sportive qui sont très très faibles, beaucoup plus faibles que dans beaucoup de lieux. Ils rêvent à travers le sport et l'équipe les aide à rêver. On a aussi déjà des réussites sportives. Je pense à un jeune qui performe en athlétisme qu'on a eu. On en a dans le football, puis on en a dans le hip-hop, on en a sans doute dans d'autres sports que j'ai oubliés, mais je suis écouté par M. Bordillon.
Il va vous taper les doigts.
On a, je pense à comment s'appelle, Dylan, qui est très fort en sprint. On a des jeunes en football, notamment qui sont avec le FCVV, et puis au niveau du hip-hop surtout. On en a aussi beaucoup qui sont à un très bon niveau de hip-hop.
Le sport et l'Olympique continueront d'être à l'honneur dans les prochaines semaines à la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône avec le mois olympique qui aura lieu en juin. Pour l'occasion, des animations auront lieu et un temps fort le 22 juin à l'Escale où les associations sportives viendront proposer des animations sportives bien sûr, mais aussi culturelles lors de cette journée festive. La page sportive avec Eddy Bernard.
Calade Sport. Les résultats sportifs du Beaujolais Val-de-Saône.
Calade.
À nouveau battu vendredi 3 mai, nos équipes de football du championnat national 1 sont de plus en plus proches du précipice. Le FC Villefranche-Beaujolais, 13e du classement avant la 32e journée, se rendait à Châteauroux, 12e avec un seul point d'avance sur les Tigres. Mais ces derniers se sont montrés encore peu inspirés et cèdent même devant la Berrichonne à 9 minutes de la fin. Si leurs positions sont inchangées, les Caladois sont désormais à 4 points du premier non relégable sur lequel ils n'ont même pas le goal average. Quant au goal FC qui accueillait Nîmes, 4e du classement vendredi, il concède un premier but après 34 minutes de jeu, mais si Raspantino égalise juste avant le retour au vestiaire, les Gaulois craquent à 2 minutes du terme et restent à la 15e place et à 5 points de Châteauroux justement. Nos deux représentants sont désormais dans l'obligation de remporter leurs deux derniers matchs pour garder un hypothétique espoir de maintien en National 1. Beaujolais Basket remporte le derby à Prissé pour le compte de la toute dernière journée du championnat national 2, samedi 4 mai. À l'issue d'une rencontre intense et enfin maîtrisée de bout en bout à l'extérieur, mais la victoire du pays salonnais à la ravoir prive les Quinciatons des playoffs 2024, qui terminent cependant en 3e, leur meilleur classement jamais atteint à ce niveau. Clap de fin également pour le volleyball Villefranche-Beaujolais, samedi 4 mai, sur une victoire au Palais des Sports sur Saint-Égrève en 4-7. Les Caladois empochent difficilement la première manche et plus nettement la seconde, mais se relâchent dans le troisième pour conclure ensuite et atteindre finalement leur meilleur classement cette saison à la 4e place du National 2. Les féminines du VBVB, en revanche, terminent sur un revers, toujours à domicile en National 3, dominées en 3 manches par la S Vélizy 2. Deuxième du championnat, les Caladoises obtiennent cependant leur maintien à la 9e position finale. Le coureur caladois Théo Thomas brille sur les 3 étapes du 52e circuit de Saône-et-Loire, disputé les 3, 4 et 5 mai derniers. Sur la première étape vendredi, partie du Creusot et pour Chardonnay, il termine 9e à 1,07 du vainqueur aux avant-postes du peloton. Samedi, sur la deuxième, entre Paray-le-Monial et Charolles, il dispute la victoire avec les échappés du jour et prend la 5e place. Enfin, dimanche, depuis Autun et jusqu'au Creusot, le Loup remet ça et échoue à la 2e place sur la ligne d'arrivée. Théo Thomas s'empare tout de même de la 6e place du classement général, remporté par le Stéphanois Alexandre Jamais, qui s'était imposé le premier jour.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.